France Culture.
Échange de missiles entre l'Inde et le Pakistan, nouveau regain de tension entre les deux voisins, 11 civils tués au moins cette nuit dans des bombardements indiens au Cachemire. Nous sommes avec notre correspondante dans la région. L'Europe pousse pour un cessez-le-feu de 30 jours en Ukraine. Plusieurs leaders européens reçus aujourd'hui à Kiev par Volodymyr Zelensky. Ils veulent imposer un ultimatum à Vladimir Poutine, trêve sans condition ou des sanctions accrues sur Moscou. Nous sommes également en Catalogne, 160 000 personnes sont confinées ce midi à cause d'un nuage toxique de chlore. Un dépôt industriel est en feu. Et puis l'invité de ce journal, Coralie de Souza-Vernet, la responsable patrimoine et recherche à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage à l'occasion de la Journée nationale de la mémoire de la traite. Où s'arrêtera l'escalade entre l'Inde et le Pakistan? Les deux puissances, toutes deux dotées de l'arme nucléaire, ont échangé cette nuit des tirs d'artillerie, de drones, de missiles. Nouvelle étape de ce conflit qui s'est aggravé depuis l'attaque du 22 avril dans le Cachemire indien. 26 civils tués. L'Inde accuse un groupe terroriste pakistanais, ce qu'Islamabad dément. Le cœur de ce conflit, c'est ce territoire contesté par les deux ennemis, le Cachemire, dont une partie est administrée par l'Inde, une autre par le Pakistan. Et une autre enfin par la Chine. Sonia Ghezali, vous êtes la correspondante de RFI et de Radio France dans cette région. Sonia, un nouveau palier a donc été franchi la nuit dernière.
Le Pakistan a en effet lancé une opération militaire qui porte le nom d'opération Bunyan ul-Marsous, traduction mur incassable. Elle a été lancée après que des missiles ont été tirés contre des bases aériennes très tôt ce samedi matin. Les bases de Shorhout, de Murid et de Nurhan. Ces dernières se trouvent à 10 km d'Islamabad, la capitale, où les habitants ont d'ailleurs entendu de grosses explosions aux environs de 3 heures du matin. Explosions rapportées également hier au-dessus de la ville de Lahore et à Karachi, la mégapole du sud du pays. Il s'agissait, semble-t-il, de drones interceptés, comme l'auraient d'ailleurs été la plupart des missiles lancés par l'Inde au Pakistan. C'est ce qu'affirment les autorités pakistanaises. Depuis, les frappes de missiles, les tirs d'artillerie et les attaques de drones se sont succédées entre les deux voisins. Le Pakistan dit avoir frappé plusieurs sites militaires en Inde au cours de ces dernières heures. Les pays du G7 ont appelé hier l'Inde et le Pakistan à la plus grande retenue. Il y a eu des tentatives de médiation de certains pays, la Chine ou encore les États-Unis, par la voix de son secrétaire d'État, Marco Rubio. Mais jusque-là, la diplomatie a échoué.
Et Sonia, comment les habitants du Cachemire pakistanais réagissent-ils à ces bombardements ?
Eh bien, l'inquiétude est montée d'un cran il y a 3 jours à Muzaffarabad, la capitale du Cachemire administrée par le Pakistan. Une frappe indienne a visé une mosquée et quelques habitations. C'est ce que rapportent les médias locaux. Jamal, un trentenaire qui réside dans la ville, regrette l'impact du conflit sur la vie des Cachemiris. Les familles sont déchirées de part et d'autre de la ligne de contrôle, regrette-t-il. Personne ne veut la guerre, dit-il. Lui qui rêve de pouvoir circuler librement des deux côtés de la frontière. Certains des habitants près de la ligne de contrôle ont dû aller se réfugier dans d'autres villes, les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Certaines personnes ont emménagé des abris anti-bombes. Les échanges de tirs nourrissent son quotidien le long de cette frontière de facto où il y aurait eu plusieurs frappes indiennes au cours des dernières heures. Un bilan d'au moins 12 civils tués et d'au moins 50 personnes blessées, rapporté par les autorités locales.
Sonia Ghezali, correspondante de RFI et de Radio France en Inde. Vous le disiez, Sonia, les pays du G7 tentent de raisonner les deux parties pour éviter une escalade encore plus grave entre deux pays qui disposent de la bombe nucléaire. Mais pour l'instant, la communauté internationale ne s'implique pas assez pour faire redescendre la pression. C'est en tout cas l'avis d'Arifa Noor, éditorialiste et essayiste pakistanaise.
The situation or standoff between India and Pakistan escalating is rather worrisome as further escalation can cause misunderstandings or mishaps between the two nuclear powers.
L'escalade entre l'Inde et le Pakistan est de plus en plus inquiétante car elle pourrait mener à des erreurs de calcul entre les deux puissances nucléaires. Et ce qui rend la situation encore plus critique, c'est que la communauté internationale, et particulièrement les États-Unis, qui par le passé ont joué un rôle majeur dans la désescalade entre les deux pays, ne semble pas vraiment en mesure de le faire, ni même forcément de vouloir jouer ce rôle. Pendant ce temps, les missiles et les attaques de drones sur les villes continuent et l'Inde menace toujours de couper l'approvisionnement en eau du Pakistan, ce qui constitue pour lui une menace existentielle.
L'éditorialiste pakistanaise Arifa Noor, elle répondait à Noé Pignède. Comment obliger la Russie à observer un cessez-le-feu durable en Ukraine, inconditionnel, dit même à l'instant Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le président de la République française, les premiers ministres britanniques et polonais, ainsi que le chancelier allemand. On discute depuis ce matin à Kiev, où ils sont reçus par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Maxence Lambrecq, vous suivez cette réunion pour France Culture et les Européens veulent marquer une nouvelle étape.
Emmanuel Macron veut voir dans ce sommet un tournant car le chancelier allemand entrouvre désormais la porte à un emprunt européen pour financer les efforts de défense.
Ce qui est en train de se faire avec la Pologne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, c'est un moment historique pour une Europe de la défense et une plus grande indépendance pour notre sécurité. Évidemment pour l'Ukraine aujourd'hui, mais pour nous tous. C'est une nouvelle ère. C'est une Europe qui se pense comme puissance.
Ils viennent d'échanger sur les conditions de cette puissance. Quels moyens déployer pour assurer l'éventuel cessez-le-feu? Les Européens veulent embarquer les Américains ces jours-ci pour poser à Vladimir Poutine un ultimatum. Un cessez-le-feu de 30 jours, sans conditions, ou de très fortes sanctions, notamment sur le pétrole. Emmanuel Macron appelle à des discussions directes entre Moscou et Kiev. Nous sommes prêts à aider. Mais le Kremlin n'a pas attendu la fin de ce sommet pour répliquer. Un cessez-le-feu avantagerait l'Ukraine, explique son porte-parole. Restent donc les images pour illustrer la détermination des Européens. Ce matin, place Maïdan, les cinq dirigeants se sont recueillis devant les portraits de soldats et de civils tués.
We observe a moment of silence.
Un instant de pause sous un ciel bleu azur, scruté par l'armée, prête à riposter au moindre drone. Volodymyr Zelensky et son épouse, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, Donald Tusk déposent chacun une grande bougie dorée et rouge avant de s'arrêter un instant devant la presse. Pour immortaliser ce moment d'unité, le leader ukrainien entouré chez lui par les siens. Derrière eux, de grosses lettres blanches entourent un cœur rouge. « J'aime l'Ukraine » est-il écrit dans la langue de Kiev.
Maxence Lambrecq, envoyé spécial de France Culture à Kiev, en Ukraine, à Genève, en Suisse. Les négociations entre les États-Unis et la Chine ont commencé ce matin sur la rive gauche du lac Léman. Les deux pays doivent aborder la guerre commerciale qui les oppose. Donald Trump a en effet imposé une surtaxe de 145% sur les marchandises importées depuis la Chine. Pékin a riposté avec 125% de droits de bout de douane sur les produits américains. Ces discussions qui doivent se poursuivre demain sont un pas positif et constructif vers la désescalade, estime l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. En Espagne, près de 160 000 habitants sont confinés depuis ce matin. Les autorités de Catalogne leur demandent de rester chez eux à cause de cet important nuage toxique du chlore. C'est un entrepôt de produits pour piscine qui a pris feu. Les précisions du correspondant de RFI et de France Culture en Catalogne, Pierre Chaperon.
L'incendie a débuté peu après 2h du matin dans la localité de Vilanova i la Geltrú, à une cinquantaine de kilomètres au sud de Barcelone. Ce sont des entrepôts de produits de piscine qui ont pris feu. Résultat, un important nuage à base de chlore s'est formé dans la région. Une substance nocive qui a poussé les autorités à envoyer des messages d'alerte sur les téléphones des habitants des zones concernées autour de Barcelone et Tarragone. Consigne claire, restez confinés, portes et fenêtres fermées jusqu'à nouvel ordre. Les transports publics en direction de la zone ont été suspendus. Seuls les déplacements pour des urgences ou des raisons médicales sont autorisés. Si les pompiers affirment que l'incendie est désormais maîtrisé, c'est la toxicité du nuage de chlore qui inquiète toujours les autorités locales. Le propriétaire des lieux de l'incendie a avancé dans les médias de la région que l'explosion d'une batterie de lithium pouvait être une des pistes à l'origine du feu.
Pierre Chaperon. Le Premier ministre François Bayrou attendu à Brest cet après-midi pour une cérémonie à l'occasion de la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Depuis 2006, chaque 10 mai, la France rend en effet hommage aux victimes de la traite négrière et organise des actions en lien avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Avec nous pour en parler sur France Culture, Coralie de Souza-Vernet. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes responsable patrimoine et recherche à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. En France, l'esclavage a été reconnu comme crime contre l'humanité. C'est la loi Taubira de 2001. Depuis 2002, c'est au programme dans les écoles élémentaires. Depuis 2008, dans les collèges. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, Coralie de Souza-Vernet, que l'éducation nationale en fait assez pour que cette mémoire soit enseignée à nos enfants ?
Ce qui est très important de souligner dans cet apport de la loi Taubira, c'est cette inscription dans les programmes scolaires. Nous, à la Fondation, la première note justement de notre conseil scientifique a été consacrée à cette question des programmes en analysant précisément ce qui était enseigné et ce qui était présent dans les manuels. Et ce qui a été un élément fort et qu'il faut rappeler en cette année du bicentenaire de l'ordonnance de Charles X qui reconnaît l'indépendance d'Haïti et impose la double dette, c'est que par exemple la révolution haïtienne n'est pas au programme des programmes pour les enseignements généraux, mais qui est réservé plutôt et spécifié plutôt pour les programmes professionnels. Donc ça fait partie des recommandations que la Fondation avait faites dès 2020 de remédier à cela au vu de l'importance de la révolution haïtienne.
Quel est l'état de la recherche sur le sujet aujourd'hui, sur l'esclavage? Vous venez de remettre un livre blanc au gouvernement. Qu'est-ce que vous préconisez?
Alors, ce livre blanc sur la recherche française sur les esclavages, donc qu'on a baptisé le livre, a été remis donc au ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste. Ce qu'on a constaté dans ce livre blanc, c'est que, comme c'était indiqué dans la loi Taubira, il y a bien eu des progrès dans la recherche en histoire et en sciences humaines sur les questions de traite et d'esclavage. On constate une expansion du champ, c'est-à-dire que l'histoire n'est plus la matière principale qui écoute ces qui étudie ces questions. Et puis aussi, il y a une expansion du champ vers la question des héritages, de ce que l'esclavage a produit dans nos sociétés, que ce soit par exemple au niveau français en Hexagone et en Outre-mer, qui sont des questions différentes, sur des questions aussi par exemple de racisme. Donc il y a aussi une expansion disciplinaire qui fait que des matières comme l'histoire de l'art, la science politique, l'économie, le droit aussi, étudient plus précisément ces questions d'esclavage et d'abolition.
Parlons culture, si vous le voulez bien, représentation de l'esclavage, notamment au cinéma. Il a fallu attendre l'an dernier, 2024, pour voir un film français sur ce pan de notre histoire, Ni chaîne ni maître, réalisé par Simon Moutaïrou. Comment ça se fait que ce sujet n'attire pas davantage les réalisateurs de notre pays? Est-ce que c'est un sujet qui est trop lourd à porter?
Alors, le film Ni chaîne ni maître était vraiment un film très important et il a d'ailleurs été soutenu par la Fondation. Enfin, nous avons rédigé notamment par exemple un dossier pédagogique parce que c'est très important que ces contenus culturels en français et dans l'espace colonial français soient transmis notamment dans nos écoles, nos lycées et dans nos lieux de culture. Il n'y a pas eu autant de production industrielle, mais il y a eu quand même, on peut pas dire qu'il n'y a pas eu de production qui parle d'esclavage directement. Elles étaient plutôt marginalisées. Je pense à des réalisateurs comme Guy Deslauriers, à Eusanne Palsy, ou Med Hondo, qui est par exemple présent dans l'exposition Paris Noir au Centre Pompidou en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a bien eu des productions culturelles dans l'espace français, mais elles n'ont pas été soutenues par les instances centrales.
Moins grand public, donc.
Voilà, moins grand public, moins accessible au grand public, mais c'est une mémoire. Qui est très présente et c'est des œuvres qui sont très connues dans un certain nombre de milieux et l'idée c'est de mieux les transmettre aujourd'hui et aussi de s'adresser au plus grand public avec d'autres productions.
Alors vous parlez justement de représentation pour le grand public, ça me fait penser au film américain qu'on a pu avoir dans les années 2012-2013 avec 12 Years a Slave, John Gonshade qui reviennent sur l'esclavage aux États-Unis. Justement aux États-Unis, depuis le retour de Donald Trump au pouvoir en novembre, les recherches universitaires notamment sont menacées sur certains champs de recherche, notamment l'écologie, les études de genre. Est-ce que vous craignez qu'avec Donald Trump au pouvoir, la recherche sur toute cette thématique de l'esclavage aux États-Unis soit elle aussi menacée?
Alors, je peux sur la question de la menace sur les recherches sur ces sujets, on peut revenir déjà dès les débuts de la Fondation. Hein. Le Conseil scientifique, en novembre 2020, avait fait une déclaration, donc l'ensemble des membres pour s'inquiéter de ces données et pour redire l'urgence de la transmission et de du soutien d'une recherche pertinente, d'excellence, ambitieuse, pour parler à notre monde d'aujourd'hui et pour construire un avenir commun.
Merci Coralie de Souza-Vernet. Je rappelle que vous êtes responsable patrimoine et recherche à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Merci d'avoir été notre invité dans le journal de France Culture. Enfin, pour terminer, on l'apprend aujourd'hui, Hervé de la Martinière est mort jeudi à l'âge de 78 ans. Ancien fondateur et patron des éditions La Martinière, il avait notamment publié La Terre vue du ciel, ce livre de photographie de Yann Arthus Bertrand, 3 500 000 exemplaires vendus. Hervé de la Martinière était un amoureux de littérature qui vouait à ses auteurs une fidélité et une amitié indéfectible. Salut sa maison d'édition. Le temps de ce samedi après-midi, et ça se gâte pour l'ouest du pays. Arrivée d'orages sur l'Occitanie, le Béarn, le Pays Basque, le centre Val-de-Loire, la Vendée et le Berry. De la pluie sur la pointe bretonne. Ailleurs, c'est un beau temps ensoleillé. Les températures, vous avez 18 à Brest cet après-midi, 20 à Nice, 21 à Strasbourg, 22 à Bordeaux, 23 à Paris, 24 à Lyon. Midi 45 sur France Culture. Tout de suite, vous retrouvez Sens Politique avec Astrid de Villene.